Donc, très bien. On y va, on commence. Bonsoir à tout le monde. On va continuer ce qu'on a parlé en bref la semaine dernière. On va faire un cours intéressant aujourd'hui. Plus théorique que pratique. La semaine dernière, on a commencé à parler d'un tout un tas de mélachot. En fait, il y a un écho. Allô? M'écoutez bien? Ben, j'ai un écho extraordinaire. Donc on a continué la semaine dernière, on a parlé la semaine dernière de plusieurs mélachot qui sont dans notre deuxième groupe de mélachot qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire, il y a un premier groupe qui est lié à la fabrication, on va dire, du pain. D'accord? Ça veut dire depuis le moment où on sème, on laboure, on sème. Labourer, semer, et deuxième chose qu'on est jusqu'à obtenir la cuisson. D'accord, ça c'est tout un groupe de mélachot qu'on a étudié. Maintenant on est dans un deuxième groupe. Quel est ce deuxième groupe? C'est tout c'est la fabrication des tentures du Mishkan. D'accord, pour fabriquer il faut tondre. Alors les mélachot, je voulais dire en hébreu. On va voir aujourd'hui un peu toutes ces mélachot. Première mélacha, c'est gozèse. Gozèse. Ouais. Je parle avec un écho, c'est très compliqué. M'écoute là, Daniel? J'ai un écho, je m'entends en double, quoi. Donc dans notre deuxième groupe de mélachot, on va faire la série des mélachot qu'on est en train d'étudier. Gozèse, tondre. D'accord, on s'en a étudié. Mélaben, laver. Ensuite, mélapetz. Mélapetz, c'est donner des coups comme ça sur la laine pour pouvoir lui enlever tout ce qui est toutes les saletés, tout ce qui est pas kashoura vraiment à la laine. Ensuite, une fois qu'on a obtenu de la laine propre, enfin de la laine propre, on la colore. D'accord? Ça, ce sont les quatre mélachot qu'on a étudiés tous ces derniers mois. Chaque mélacha avec toute sa lachot pratique. D'accord? Ça va ensemble. La théorie et la pratique, ça va ensemble dans les mélachot de Shabbat. On ne peut pas dire directement des cas pratiques sans apprendre la théorie. Sinon, on ne comprend pas pourquoi c'est assur et pourquoi c'est moutard. D'un autre côté, il va y avoir des mélachot qui vont venir par la suite, qui sont beaucoup plus théoriques que pratiques, parce qu'ils ne sont quasiment pas mis en pratique. Mais on va voir quand même quelques cas pratiques qui vont sortir de ces mélachot. Donc aujourd'hui, on va plus s'attarder sur ce mélachot, bien comprendre la suite. Quelle est la suite? Après qu'on a tondu la laine, et après qu'on a lavé la laine, et après qu'on a frappé la laine, et après qu'on a coloré la laine. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors on reprend ce qu'on a vu un peu la semaine dernière, en plus en détail. Tové. C'est quoi Tové? Qu'est-ce qu'on fait après qu'on colore la laine? Qu'est-ce qu'on fait après? Une fois qu'on a une laine lavée, tondue et frappée, bien nettoyée, on va dire, et colorée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Tout le monde écoute? Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'on fait après d'en aimer la faute? Je sais pas si tout le monde est avec moi. Tout le monde m'écoute, Shoshana, Linda.
Je suis là.
Ah, tout le monde est là, Yofi. Parfait. Comme je vois personne, donc il faut que j'écoute. Ouais. Ah, comme je vois personne, donc il faut au moins que j'écoute. Donc on continue. Qu'est-ce qu'on fait après? On fait des fils. Effiler la laine. Quelle melacha? Ça s'appelle tové. Ha tové. Tvia. Tvia en hébreu, c'est faire des fils. D'accord? Filet. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Messer. Messer, c'est étendre les fils. D'accord? Étendre les fils. Ensuite, on. Shne, aose, shne, batenirin. Alors, tout de suite, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Oreg. Qu'est-ce qu'on fait après? Oreg. Oreg, on tisse. D'accord? Pour obtenir un habit. Donc, on tisse de la laine. Ensuite, potsea. Potsea, c'est son. Donc, on va arriver à 6 melachot qui sont en fait partagées en 3. Chaque melacha est son inverse. Première melacha, c'est tisser. Potsea, c'est défaire le tissage. Ensuite, kosher. Si au moment que je suis en train de tisser, il y a un problème dans le tissage, donc j'ai besoin de boucler le tissage avec un nœud. Donc il y a nouer et dénouer. Ça s'appelle kosher matir. D'accord, on dit tous les matins matir asurim. Matir asurim, c'est dénouer, détacher. C'est l'inverse de la melacha de kosher, de nouer. Ensuite, il y a tofer et korea. Tofer, c'est quoi? C'est coudre. Et korea, c'est déchirer. Donc là, je vous ai dit toute la liste des melachot qui sont dans ce groupe-là. Pour l'instant, on a étudié 4. Tondre, avec toute la melachot qui découle. Laver, toute la melachot qui découle, comme on a vu. Menapetz, quasiment, on n'a pas vu de cas pratique, vu les théories. Et Tsovea, comme on a vu, coloré avec tout ce qui découle de Alakha Lemaase. Maintenant, on va étudier plus en théorie, un petit peu en pratique, les autres melachot qui arrivent. Pour faire un shiur complet, il faut étudier chaque melacha telle qu'elle est. Donc, jusqu'à Oreg, d'accord? Pour l'instant, nous allons partager ça en deux. Il y a la fabrication du, on va dire, du tissu lui-même, qui est fait à base de laine. Donc comment on fabrique? On tisse. Pour tisser, il y a quatre étapes très importantes pour pouvoir tisser. Tové, filet, messer, tirer les fils, chne batenire, on va voir, faire notre fil horizontal. Ça va faire que par la fin, j'ai plusieurs, le tissage il se fait en fait une association de fils verticales, position verticale et position horizontale. Et c'est comme ça qu'on tisse. Maintenant, aujourd'hui, il y a des machines qui se font de manière automatique. On appuie sur un bouton, tout se fait. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire que pour tisser, il faut plusieurs choses. Un, que les fils soient bien tendus. Ça, c'est une preuve. D'abord, il faut des fils. Une fois que j'ai des fils, il faut bien tendre les fils. Une fois que j'ai bien tendu les fils, il faut les faire entrer dans deux anneaux différents. Parce que c'est sans cette machine... Pour que ça tisse, il faut que les fils soient bien tendus. Si c'est pas tendu, on n'arrivera pas à tisser comme il faut. On va dire que pour que les fils soient bien collés, bien un à un, de manière professionnelle, il faut que ça soit bien tiré et que je fasse rentrer un fil horizontal entre deux groupes de fils de position verticale. Vous m'avez compris comment ça marche? C'est-à-dire, si j'ai maintenant mes deux doigts, on va faire, c'est plus facile qu'un dessin. Après, je ne sais pas comment mettre ça sur une caméra. Voilà. Là. Vous voyez. Lorsque j'ai deux fils ici qui sont verticales. Comme ça. Non, je ne sais pas comment on utilise une caméra. Donc là, on n'arrivera jamais à vous montrer de manière claire. Voilà. Donc je vais tout expliquer par oral. Essayez d'imaginer. Si vous avez, le mieux c'est de prendre, il y a un livre qui s'est, il y a un livre très connu qui est sorti en Shabbat, les 39 travaux de Shabbat, c'est par le rabbin Baruch Chait. Chait, illustration, vous trouvez. Il y a des photos, il y a des dessins, on peut trouver des dessins. Si vous voulez comment ça marche, c'est deux groupes de fils de position verticale qu'on fait rentrer un fil horizontal. Donc il faut qu'il soit bien tiré, il faut à chaque fois que les deux groupes de fils sont sans arrêt, un qui monte, un qui descend, un qui monte, un qui descend, pour pouvoir mettre à chaque fois un nouveau fil. Et donc lorsque ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça me permet à chaque fois de rentrer entre les fils de position horizontale, un fil vertical, et à la fin j'obtiens, au fur et à mesure, tout un tissu qui est tissé avec des fils de position horizontale, verticale, ça me forme un habit. C'est clair, tout le monde a compris comment ça marche?
Oui, parfait.
Voilà. Maintenant, une seconde. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Donc on voit ici qu'il y a toutes ces étapes, elles sont indispensables. Un, fabriquer du fil. Deuxièmement, tirer le fil, bien étirer le fil. Troisièmement, les faire rentrer dans ces trous-là, dans ces anneaux. Parce que en les faisant rentrer dans ces trous et des anneaux, j'ai un fil qui est bien dressé. Et ça, ça va me permettre, pratiquement, pour pouvoir, de manière technique, arriver à tisser. Ensuite, il y a le tissage. Ça, c'est les quatre étapes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre chaque étape et commencer à expliquer, à trouver les quatre pratiques qui se trouvent avec chacun des parts. Fabriquer des fils. Avec quoi on fabrique des fils? Avec toutes sortes de matières. Ça peut être de la laine, ça peut être du lin, ça peut être du coton.
Avec toutes sortes de matières.
C'est ou à la main, ou à la main, ou avec un ustensile, peu importe. Tous les cas de figure. D'accord? Du moment que je prends, il y a une machine, ici je ramène dans le livre, je vais vous dire comment elle s'appelle cette machine, qui permet de faire des fils. Ça s'appelle en français le rouet. Faire tourner le rouet, ça s'appelle. Qu'est-ce qu'on fait? C'est en fait, je vais pas encore vous le montrer parce que je sais pas comment le faire montrer, mais il y a une roue. Il y a une genre de roue et on a une matière première ou de laine ou de lin ou peu importe. Et on fait tourner la roue comme ça aussi avec une pédale et en faisant tourner vite la roue, ça forme un fil. C'est-à-dire qu'on passe de matière brute à un fil qui est bien rigide, bien formé. Ça, c'est fabriquer du fil. Donc ça, c'est la première étape, comme on a dit. En français, la machine, elle s'appelle faire tourner le rouet. C'est le rouet, c'est une roue. En fait, qu'est-ce que ça fait la roue? Ça fait amener une matière première avec cette roue. Et quand je fais tourner vite la roue, le fait qu'il a la force centrifuge de la roue, ça va fabriquer un fil qui est bien rigide et bien solide. Ça, c'est fabrication du fil. Ça, c'est théorique, comment on arrive au fil. C'est une melacha qui s'appelle Tové. Où est-ce qu'on peut trouver ça en pratique? Le jour du Shabbat. Alors, on peut trouver ça en pratique. Je vais vous donner un exemple. Un exemple le plus simple, c'est le fil de tzitzit. Alors, je donne un exemple en fil de tzitzit, mais ça peut s'appliquer sur plein de fils. Est-ce que vous avez déjà essayé de démêler? Alors, le fil de tzitzit, comment c'est le fil de tzitzit? Il y a 8 fils. D'accord? Il y a les nœuds en haut et il y a 8 fils. Chaque fil lui-même, si vous avez essayé de démêler un fil, il est formé de 8 fils. Essayez de prendre un fil de tzitzit et de le démêler. Vous allez obtenir 8 fils. D'accord? 8 fils qui sont très très fins. C'est ça pour ça que d'ailleurs la forme du fil de tzitzit, elle est comme ça en spirale. Pourquoi elle est en spirale? Pourquoi elle ne serait pas en un fil de clair net comme une pelote de laine?
C'est trop fin.
Non, mais elle est formée, c'est-à-dire elle va en spirale. Si vous regardez chaque fil de tzitzit, il y en a 8, chaque fil il est fait de manière spirale. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a pris 8 fils très fins Et on les a fait tourner, 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 tellement bien qu'on a obtenu un seul fil. On a obtenu un fil. Et ça ne se voit même pas. C'est-à-dire qu'il faut le défiler pour voir que c'est fabriqué à base de 8 fils. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va dire Shabbat, un des fils commence à... Des fois, quand le tzitzit commence à devenir un peu vieux, à s'user, il commence à se défiler de lui-même en bas. Donc, si pendant Shabbat, je prends ce tzitzit et je le reforme, même avec la main, parce que pour faire du fil, pour former un fil, on n'est pas obligé d'avoir de faire avec une machine, comme on a parlé tout à l'heure de la roue, de faire tourner le rouet. Même si avec mes mains, je prends une matière brute, et je file plusieurs fois, je tourne jusqu'à ce que j'obtienne un fil. Bon, c'est plus difficile, la machine elle fait ça plus vite, mais c'est aussi une mélacha, c'est aussi ça, j'obtiens un fil, c'est très bien. Donc si j'ai un fil qui commence à se défaire, et que j'essaye de le resserrer, de le retourner, donc je retiens mon fil comme il était auparavant, ça c'est la mélacha de Tové, c'est une mélacha de Raïda. Maintenant ça peut s'appliquer, pas seulement sur un fil de tzitzit, c'est toutes sortes de fils qui sont fabriqués à base de plusieurs fils, d'accord, et qu'ils sont tellement bien entourés ensemble que ça forme un bon fil entier, c'est une mélacha de Tové, de filet, d'accord. Donc ça c'est cette mélacha de filet, fabriquer un fil à partir d'une matière brute, ou bien un fil qui est fait de plusieurs fils et qui est tellement bien fait que c'est un seul fil, s'il se défait, de le refaire, c'est une mélacha de Tové. Mélacha de Tové. Maintenant, peu importe, s'il faut savoir, on a dit que c'est ou à la main ou avec un cul. Si je file de la laine sur le mouton lui-même, ça c'est pas une mélacha. D'accord? Pourquoi? Parce que le fil, on le fabrique une fois que la laine a été déjà tondue. Malgré, mais bien qu'on sait que dans Mishkan, c'est marqué que les femmes, il y avait des femmes là-bas spécialistes qui arrivaient à filer de la laine, même lorsque c'était encore sur le mouton. Mais on ne parle pas des cas extrêmes. Dans la nature, c'est d'abord de tondre, et après, c'est avec la matière première que j'ai de former des fils. D'accord? Donc ça, c'est la première étape, c'est former des fils. Et on a vu un cas pratique, Maasé, un fil qui est fait à base de plusieurs fils, qui se défait, que je le refais, juste de faire un seul acte comme ça, de le remettre bien, et de le remettre en position de fil, c'est un interdit de la Torah de Tové. Ça, c'est des mélachotes qui sont qui maintenant inconnues, parce qu'on ne connaît plus toutes ces manières de coudre, mais il faut savoir que c'est une mélacha de Tové. Ensuite, pardon ? Quelqu'un va me poser une question? Non? On continue. Messer. La mélacha d'après, c'est de détendre bien le fil. Si j'étends pas mon fil et que mon fil n'est pas bien solide, alors dans la machine, dans le métier à tisser, à part les deux carrés où les fils passent là-bas par le trou, il y a deux genres de grandes poutres. Ici, ça s'appelle des ensouples. Et ces deux poutres-là, on fait tourner là-bas le fil est bien tiré et bien accroché sur ces deux poutres. C'est-à-dire que je ne peux pas commencer à tisser si mes fils ne sont pas tendus de manière et accrochés de manière forte. Impossible de tisser. Donc ça, c'est la première mélacha, c'est d'étendre bien le fil. Ça, il n'y a pas trop de cas pratiques là-dessus. Ensuite, il y a Osé Shne Baté Nirin. Alors c'est quoi? On a dit c'est deux, il y a deux groupes de fils de manière de position verticale. Ils doivent rentrer dans ces cadres-là. Ces cadres, il y a des genres de cadres, il y a des anneaux. D'accord? Dans ces cadres-là, il y a des anneaux. Et lorsque le fil est bien rentré dans l'anneau, c'est ça ce qui va permettre que je vais pouvoir écarter les fils au fur et à mesure pour pouvoir rentrer le fil horizontal. Donc ça aussi, c'est très important pour pouvoir tisser. Donc ça s'appelle Osé Shne Baté Nirin. D'accord? Il faut que ça tienne bien. Le fait de préparer, en fait, c'est quoi l'idée de cette mélacha? C'est pouvoir préparer quelque chose pour que je puisse tisser. Alors maintenant, je vais vous donner un certain cas. Maintenant, aujourd'hui, personne ne fait ça. Ce métier à tisser, ça n'existe plus. Enfin, même si ça existe, personne ne va faire ça à Shabbat. Et puis, de toutes les manières, ça se fait de manière électrique. On va prendre plusieurs cas, vous allez voir, qui rentrent dans le même système. Exemple, fabriquer un panier en osier. Comment on fabrique? On prend, pareil, on prend des, on va dire, on va prendre en paille, on va dire. D'accord? Fabriquer un chapeau de paille, fabriquer un panier en paille, en toutes sortes de matières, peu importe. C'est tout le temps des fils verticales et horizontales, verticales, horizontales. C'est comme ça qu'on forme toutes sortes de choses. Un autre exemple, j'ai plusieurs exemples. Il y a des, pour avoir le, comment on appelle ça, un petit éventail. Il y a des éventails qu'on fabrique à base de bâtonnets de glace. Vous avez déjà vu? On prend plusieurs bâtonnets de glace, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. Et on obtient un petit éventail. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut fabriquer. Par exemple, le panier de loulave. Vous avez vu comment c'est fait, le panier de loulave? Là, on met le hadas et la rava. C'est fait à base de feuilles de loulave. On a mis position horizontale, position verticale, et on a obtenu un panier. Donc, on peut faire plein de choses comme ça, le Shabbat. C'est pas obligé de... Puisque l'idée de la melacha, c'est de tisser horizontal, vertical, horizontal, vertical. D'accord? Et pour obtenir quelque chose, donc on peut obtenir... ou de la laine, un tricot qui est fait comme ça, tricoter de laine pour horizontal, vertical. Mais on peut aussi faire toutes sortes de choses que je vous ai dit. Toutes sortes de choses qui sont fabriquées à base de plusieurs éléments horizontal et vertical. Maintenant, pour pouvoir arriver à tisser, à obtenir quelque chose, il faut d'abord que je les dresse bien. Et il faut qu'il y ait au moins une base. C'est-à-dire au moins une base, on va dire, de minimum deux horizontales et deux verticales. Je vous donne un exemple plus simple. C'est quoi les fils de Scooby-Doo?
Ouais.
Voilà. Comment on fait les Scooby-Doo? C'est exactement pareil. On a des fils. D'accord? Et ces fils-là, on fait une... Au départ, on a des fils. Si je commence à faire le Scooby-Doo avec les fils, impossible de le faire. Il faut une base d'abord. Il faut une base claire. Quoi? Des fils bien tendus. Et au moins une base de deux horizontales et deux verticales pour que je puisse continuer à tisser tout le Scooby-Doo. Dès que j'ai une base, ça va m'aider à pouvoir continuer. Si j'ai pas cette base, impossible. Les fils, ils vont partir dans tous les sens. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une préparation au tissage. Si j'ai pas cette préparation, d'accord, des fils bien tendus et une base au moins minimale pour que je puisse continuer, d'accord, alors j'ai pas la melacha de je peux pas tisser. Lorsque j'aurai terminé tout mon Scooby-Doo, quelle melacha j'ai fait? Quelle melacha j'ai transgressé? Qui sait? Parce que tout le Scooby-Doo, il est fait à base de fils comme ça, de fils en plastique, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical. D'accord? Mais pour commencer à faire ça, il faut au moins mettre deux horizontales et deux verticales. Ça ne s'appelle pas encore vraiment tissé parce que je n'ai pas encore un chiour assez important pour quelque chose qui est tissé. Mais c'est la base qui va m'aider à pouvoir continuer à tisser. Donc la base, les choses qui m'aident à tisser, c'est osé shne batenirin. C'est comme si je prends les fils et je les étends bien et je les fais rentrer dans ces anneaux-là. Parce que ces anneaux, ils vont m'aider après, sans arrêt, à écarter les fils horizontales, écarter les fils verticales, rentrer le fil horizontal. Ensuite, et ainsi de suite, monter, descendre. Ces actions-là, ça va me permettre à chaque fois de mettre bien le fil horizontal et d'obtenir à la fin un vrai habit qui est fait à base de fils horizontal et vertical. Donc, les choses qui m'aident à tisser, c'est une melacha. Et le fait de tisser, c'est aussi une autre melacha. Qu'est-ce qui m'aide à tisser? D'abord, les fils, fabrication du fil. Ensuite, tirer les fils et les faire rentrer dans les anneaux, c'est ce qui va me permettre de manière pratique à pouvoir tisser, parce que j'ai fait rentrer dans la machine. Une fois que c'est bien mis, tendu dans la machine, alors il me suffit juste d'appuyer dans la pédale et de mettre le fil horizontal. Sans ça, je ne pourrais pas du tout tisser, parce que j'ai plein de fils de tous les côtés. Et après, on commence à tisser. Ça, c'est la melacha de Oreg. Un autre exemple. Si j'ai par exemple une perruque, et je décide de faire une tresse. Quelle melacha c'est? Ou par exemple, une poupée. D'accord?
Poupée?
Une poupée de... Ouais?
Ouais, c'est tissé aussi.
Pareil, je fais une tresse. Je prends une poupée, je décide de faire des tresses à une poupée. D'accord? Pour ma petite fille. Donc je décide de fabriquer des belles tresses. On n'a pas le droit. Quelle mélacha, c'est? C'est tisser. C'est prendre des fils. D'accord?
Il y en a un dans l'autre.
Voilà. On rentre un dans l'autre. 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 Jusqu'à ce que j'obtiens un produit qui est entièrement tissé. Donc c'est peu importe. Dans l'époque du Mishkan, c'était avec des fils de laine. Maintenant, on peut appliquer ça à plein de choses. L'essentiel, c'est quoi? C'est de faire fabriquer quelque chose en faisant horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Ça, c'est dans le cas de la poupée, par exemple, ou bien, par exemple, dans une perruque. Si on décide de faire une tresse dans une perruque, c'est exactement pareil. Les fils de la perruque, c'est comme les fils de la couture. Et on va mettre horizontal ou horizontal, vertical, de tous les côtés, peu importe. En tout cas, c'est faire former quelque chose qui est fait de manière tressée. Ça rentre aussi dans la melacha de oreg. Oreg avec aleph, pas avec he. He, c'est tuer, la rogue. Les erog, c'est tisser. Ariga. Ariga, c'est le tissage. D'accord? Maintenant, se faire une tresse. D'accord? Une fille qui veut se faire une tresse dans les cheveux. Est-ce que ça rentre dans cette melacha ou pas?
Bah oui, aussi, c'est pareil.
Pareil, c'est mieux. Bien fait. Alors, on n'a pas le droit de faire une nappe, mais ça rentre pas dans la melacha de tisser. Pourquoi? Parce qu'il faut se référer toujours au Mishkan. Quand est-ce qu'on tisse? On tisse avec les fils qui ont déjà été tondus. Donc, tisser, c'est toujours sur un objet. Ça ne peut pas être sur le corps de l'homme. Tisser sur le gouffre à Adam, ça ressemble un peu comme on a dit, colorer sur le corps de l'homme quand on étudie la melacha de colorer. Ça rentre pas du tout dans la melacha de Oreg. Ça rentre pas dans la melacha de tisser.
Non.
Par contre, lorsque je prends des nattes, ça sera quand même interdit pendant Shabbat de faire une natte sur des cheveux. Quand je parle, quand les cheveux sont attachés sur le corps. Quelle melacha c'est? Ça ressemble à construire. Parce que quand même, c'est un interdit des chachamim. Une melacha interdit de la Torah, il n'y a pas ici l'interdit de la Torah. Mais puisque quand même, j'ai fabriqué quelque chose, j'ai fait quelque chose de... intéressant, il y a eu des cheveux et j'ai fait toute une forme, une vraie natte. Donc ça ressemble à construire quelque chose. Un melacha qu'on va voir par la suite plus tard, qui s'appelle la melacha de bonnet. Donc ça sera aussi interdit, mais ça rentre pas dans la même si ça ressemble. D'accord, ça ressemble à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, mais puisque c'est sur le corps de l'homme, donc on ne peut pas dire que c'est une melacha. Et donc si c'est pas une melacha, quand même ça ressemble parce que j'ai fait fabriquer un produit si intéressant. Donc ça restera à sur minera banane de domer les bonnets. Ça ressemble à construire. Dernière melacha qui rentre dans la... Donc on a vu filer, on a vu tirer les fils, on a vu shnei batenirin préparer à tisser. Ensuite, oreg. Oreg, c'est tisser. La melacha de oreg, c'est tisser. Ensuite, maintenant, quel est l'inverse de tisser? C'est melechet potsea. Potsea, ça veut dire quelque chose qui est bien tissé, que je décide de le défaire. Donc, si je le défais, c'est l'inverse de la melacha de tisser, donc ça sera aussi interdit. Maintenant, on va rentrer dans une série de melachot. Tout ça, c'est ce qu'on a parlé dans le tissage. Maintenant, on va parler dans les melachot qui arrivent par la suite. Il y a oreg, regardez, il y a trois melachot qui se ressemblent, mais en fait, si on approfondit et qu'on définit bien, ça va être trois melachot qui sont totalement différentes. Et là, ces melachot, maintenant, on va commencer un petit peu à définir aujourd'hui la première melacha qui vient juste après, c'est kosher. On va essayer en bref de commencer à l'étudier. Mais avant tout, il faut d'abord essayer d'expliquer toutes les melachot qui arrivent. Il nous reste, pour terminer ce groupe, 6 melachot qui en fait sont 3. C'est chaque melacha et son inverse. Première melacha, c'est tisser, et l'inverse, on a dit, c'est enlever le tissage. Ensuite, on a kosher. Kosher, c'est nouer, faire des nœuds. L'inverse de nouer, c'est quoi? Dénouer, matir. Ensuite, une autre melacha qui est après, c'est tofer. Tofer, c'est coudre. L'inverse de Topher, c'est... Coréa. Coréa, c'est déchiré. Maintenant, quelle différence il y a entre tisser, coudre et nouer? Apparemment, les trois, c'est un peu le même but. C'est des, il y a deux choses qui sont écartées que j'essaye de les rattacher. D'accord? C'est ça le but, en fait. Il y a plusieurs éléments, au minimum deux éléments, que je décide de faire un seul élément. Ça, c'est en fait, en gros, le point commun qui est entre ces trois mélachotes. Mais Kamouvan, puisque il fait partie de 39 mélachotes, on les a séparés en trois mélachotes différents, c'est-à-dire que chaque mélacha est très différent de l'autre. Alors, kosher, c'est nouer. D'abord, premièrement, orek, tisser, elle est très différente de kosher, nouer et coudre. Pourquoi? Parce que tisser, lorsque je tisse, en fait, il y a plusieurs éléments. Il y a plein de fils. Et je fais de plusieurs fils un seul élément. Mais lorsque j'ai mon habit en face de moi, je ne vois plus les fils. Il faut vraiment regarder bien pour voir que c'est fait à base de plusieurs fils. Mais ces fils, ils sont tellement bien réunis que ça forme un seul habit. Ça, c'est tisser. Ça, c'est la mélacha de Horeg. Maintenant, on continue. Au Mishkan, lorsqu'on était en train de tisser, il y avait des fois un petit problème, c'est que des fois, la chose qu'on était en train de tisser, elle s'est déchirée à un endroit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Retisser ça, c'est trop compliqué parce qu'on a déjà bien avancé dans le tissage. Qu'est-ce qu'on fait pour arranger le problème? On noue. On fait un nœud. Qu'est-ce que j'ai gagné en faisant le nœud? C'est pas comme le tissage. Le nœud, il va faire que j'ai deux éléments qui sont séparés l'un de l'autre. Et par l'intermédiaire du nœud, j'ai arrangé le problème. Mais on voit le nœud. C'est-à-dire que le nœud, il va juste me lier deux éléments, mais il ne va pas les fabriquer en un seul élément comme le tissage. D'accord? Ça, c'est le nœud. Je vous donne un autre exemple qu'il y avait dans le Mishkan du nœud. Vous allez voir comment ça ressemble un peu. C'est dans la théorie de ce din-là de faire un nœud. Où c'est qu'on voit dans le Mishkan encore cette mélacha de faire kosher? Là, vous allez voir que vous allez avoir dans la pratique, on va arriver à plusieurs cas pratiques dans les nœuds Shabbat. Mais avant tout, d'abord bien comprendre la mélacha. Dans les couleurs de la fabrication du Mishkan, on avait besoin d'une des couleurs. Vous vous rappelez comment on obtenait la couleur? On faisait cuire des graines de couleur. Mais il y avait une couleur qui était le trelet. Et le trelet, il vient d'un animal qui s'appelle le chilazon. Et ce chilazon, il se trouve dans la mer. Et pour l'attraper, il fallait un filet, comme les filets de pêcheurs. D'accord? Pour l'attraper, pour le capturer, cet animal, et après cet animal, on le sortait, et de cette sortie, on sortait une couleur qui s'appelait la couleur du trelet. D'accord? Pour pouvoir après colorer les tentures du Mishkan en trelet. Lorsque maintenant, on a un filet de chasse, on a un genre de filet comme ça pour attraper. Le filet, maintenant, je vais définir quel. Ça dépend. Si Nagui de la zone il est loin, il va me falloir un grand filet. S'il est pas loin, il va me falloir un petit filet. Comment on fabrique un filet? J'ai vu les filets de pêcheurs. C'est fait en fait noué de plusieurs fils. C'est-à-dire il y a plusieurs fils. Si on veut agrandir, on noue. On fait un nœud, plusieurs nœuds à plusieurs fils. Et comme ça, on agrandit le filet. Si on veut rétrécir le filet, on dénoue. Comprenez? C'est-à-dire il faut faire un nœud pour pouvoir agrandir le filet. Où c'est que je fais un nœud? Ça dépend de la taille du filet que je veux. Plus je veux un filet long, plus je veux faire un nœud à chaque fil. Plus je fais de nœuds, plus mon filet va. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on appelle ça un filet, parce qu'il est fait à base de plusieurs fils noués l'un à l'autre. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai associé deux morceaux, on va dire, de filet avec des nœuds. Un fil et un autre fil, j'ai noué. Un fil et un autre fil, j'ai noué. Est-ce que le filet, il est fait... Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre fabriquer un filet comme ça avec des nœuds et tisser un habit à base de fil? Très différent. Lorsqu'on tisse, on a un seul élément et on voit même plus les fils tellement qu'ils sont. Parce que pour ça, il faut une machine. Pour ça, il faut bien tirer, comme on a dit, les fils. Pour ça, il faut bien avoir, de manière professionnelle, obtenir vraiment quelque chose de horizontal, vertical, jusqu'à ce qu'on voit même plus les fils horizontal et vertical tellement que c'est bien tissé. Tandis que là, c'est associer deux éléments avec un nœud. Ça, c'est la mélacha de kosher. Si mon filet est trop grand et j'ai besoin d'un filet qui est trop petit, qu'est-ce que je fais? Je dénoue. Et ça, on faisait dans la fabrication du Mishkan pour pouvoir attraper le chilazon et pour pouvoir obtenir la couleur de Trelet. D'accord? Donc ça, c'est la melacha de kosher. À deux endroits. Ou bien ce filet dont on parle, ou bien aussi lorsqu'on tissait, on arrivait à un problème dans le tissage, deux fils qui sortent, tu genoues. Et le fait de nouer, ça va me permettre au moins de conserver le tissage que j'ai déjà formé. Ça, c'est kosher. Ensuite, maintenant, la troisième melacha qu'il y a, c'est tofer. Tofer, c'est coudre. Alors, coudre, c'est aussi différent. Qu'est-ce que c'est coudre? C'est un peu comme kosher, mais c'est différent. Pourquoi? Parce que coudre, c'est prendre deux éléments et de les relier avec un troisième élément. C'est-à-dire, j'ai par exemple, on va dire, un couturier. Il a devant lui un tissu. D'accord? Donc pour faire ce tissu, il a besoin, d'accord, on va dire qu'il a besoin, il a deux morceaux de tissu. Comment il va associer ces deux morceaux de tissu? Il ne fait pas de nœud. On ne peut pas nouer des tissus. Et puis même s'il noue le tissu, ça va former un pantalon tout noué. Il ne veut pas, il veut un pantalon qui est bien. Tisser, on ne tisse pas. Une machine à coudre, ce n'est pas du tout la machine dont on a parlé tout à l'heure de mettre des fils horizontales, verticales, horizontales, verticales. Donc qu'est-ce que c'est une machine à coudre? C'est de prendre un troisième élément qui est un fil. Et avec ce fil, je vais attacher, je vais relier les deux morceaux. Donc c'est relier deux morceaux par l'intermédiaire d'un troisième, relier deux éléments par l'intermédiaire d'un troisième élément. Vous voyez la différence entre nouer et coudre? C'est que nouer, je prends les deux éléments et je les noue ensemble. Coudre, c'est prendre un troisième élément et relier les deux. Et de faire qu'un seul. Et tisser, c'est prendre plein d'éléments et de manière professionnelle les mettre horizontal, vertical, horizontal, vertical. C'est pour ça qu'il faut des professions, faire ça de manière. Et d'arriver à un seul élément qui est formé de plein d'éléments horizontal et vertical. Ça, c'est les trois grandes mélaphores qu'on va étudier maintenant par la suite. Je dis aujourd'hui, c'est un cours qui est très théorique. Il faut bien comprendre, pour bien comprendre chaque melacha et après arriver à plein de cas pratiques. Et là, on va comprendre la différence qu'il y a. D'accord? Donc, kosher, d'abord on commence par oreg, ça on a déjà vu, on a déjà étudié. Pot oreg. Ensuite, kosher, c'est ce qu'on va commencer à étudier maintenant. Noué. Et par la suite, on va étudier tofer. Maintenant, chaque melacha, elle a son inverse. Oreg. Potsea. Potsea, c'est défaire le tissage. Kosher, c'est quoi l'inverse de kosher? C'est matir. Ha kosher veha matir. Nouer, dénouer. D'accord? Et ensuite, par la suite, c'est tofer korea. Korea, c'est déchirer. Si par exemple, on a un couturier qui veut essayer de faire un ourlet. Donc d'abord, avant de coudre, il déchire. D'accord? Il y a un tissu. On a besoin maintenant de faire un ourlet, toutes sortes de travaux dans le tissu. Des fois, on est obligé, pour que ça sorte bien droit la couture, on a besoin de déchirer d'abord, de former les deux éléments, et après de recoudre. Donc le fait de déchirer, c'est en fait une melacha. Et le fait de coudre, c'est aussi une melacha. Le fait de dénouer, c'est une melacha. Le fait de nouer, c'est aussi une melacha. D'accord? Donc ça maintenant, c'est les quatre melachot. Tout ce qu'on a vu. Tove, Meser, Shnebate, Nirin, Oreg, Potsea, c'est cinq melachot qu'on a essayé d'expliquer maintenant en théorique. On n'a pas trop de pratique. À part les deux cas pratiques qu'on a, c'est, si vous vous rappelez, c'est un fil qui s'est défilé, que j'essaye de refiler à la main. Ça, c'est pratique. Ça, on peut arriver Shabbat sans le savoir. C'est une mélacha de filet. Et une autre mélacha, comme on a dit, c'est faire toutes sortes de. Fabriquer toutes sortes de choses de manière horizontale, verticale, horizontale, verticale. Les tresses qu'on a parlé tout à l'heure, le Scooby-Doo, toutes sortes de choses que j'ai. Des paniers en osier. toutes sortes de choses que je veux tisser. D'accord, tisser, c'est pas seulement avec les fils, on peut élargir ça sur toutes les matières. Donc ça aussi, ça rentre dans des cas pratiques. Maintenant, on commence à rentrer dans la mélacha de kosher. D'accord, donc on va essayer un peu d'aborder aujourd'hui, d'aborder cette mélacha, la mélacha de kosher et noé. Donc ça, on a vu, je dis, on a définition de, au Mishkan, on a déjà parlé. Le fameux filet des, pour pêcher le filazone. Et noué, lorsque on est en plein tissage et qu'il y a eu un problème dans le tissage, on est obligé vite de réparer, de faire un petit nœud. D'accord? Donc ça, c'est noué, kosher. Et là, c'est une mélacha assez compliquée. Donc on va, je vais essayer de la simplifier au maximum et de voir les règles, les principales règles de cette mélacha. Et après d'arriver bien sûr à des cas à la chalema assez, il y en a pas mal quand même dans cette mélacha. Kosher. Kosher, donc on a dit d'abord c'est quoi la définition? La définition de kosher, c'est faire un nœud pour toute utilisation. C'est-à-dire si maintenant j'ai un intérêt que ces deux choses, deux éléments soient noués ensemble, et j'ai un intérêt que ça soit noué ensemble, c'est la mélacha de kosher. C'est-à-dire le but de kosher, il va venir lorsque j'ai, je veux associer deux éléments, et la meilleure des manières de les associer, c'est en faisant un nœud. Ça, c'est la définition. Dès que j'ai un but, peu importe mon but, d'accord? Peu importe mon but, peu importe si du moment que j'ai un nœud qui va m'associer deux éléments, je suis transgresse la mélacha de kosher. Maintenant, il y a des notions ici qui rentrent dans cette mélacha. Ça, je vous ai dit que c'est un. C'est, si on étudie ça en approfondie, c'est assez complexe. Donc, je vais essayer de juste vous dire les notions. Il y a deux grandes notions ici qui rentrent dans pour qu'un nœud soit appelé un vrai nœud. Pour définir, maman, qu'est-ce que c'est faire un nœud dans la mélacha de kosher. Alors, il y a deux éléments. Il y a la manière dont je fais mon nœud et il y a la durée de mon nœud. Ça, c'est les deux notions, vraiment, d'abord en gros plan. Hein. Deux notions. Ces deux notions, en fait, ce sont ça qui vont nous définir qu'est-ce qui s'appelle un nœud qui est interdit par la Torah. C'est-à-dire, il faut ces deux notions. La qualité de mon nœud, ça c'est un, et la durée du nœud. C'est-à-dire, combien de temps il va, quelle est l'intention quand j'ai fait mon nœud, lorsque je fais un nœud. On peut avoir une intention de le faire et de le défaire le jour même, et je peux faire un nœud qui va rester des années pour toujours. D'accord? Donc il y a une durée, il y a une notion de durée dans le nœud, et il y a une notion de qualité dans mon nœud. D'accord? Ces deux choses-là, c'est ça qu'il faut, les deux notions de base dans cette mélacha de kosher. Tout va tourner autour de ces deux notions-là. Si on définit bien, des fois ça va être interdit par la Torah, lorsqu'il y aura vraiment ces deux définitions qui sont bien remplies. Des fois, lorsqu'il manquera, on va voir après qui et comment, ça descendra à un niveau de interdit des Chachamim. Et si j'ai aucun de ces deux notions, c'est-à-dire ni dans le temps, ni dans la qualité, ça va être permis de faire le nœud. Et de là, à partir de là, ça c'est théorique, et à partir de là, on va commencer à appliquer ça dans des cas pratiques. Alors, première chose, la durée. Pour que ce soit un interdit de la Torah, combien il faut que mon nœud y dure? D'accord? Combien de temps il faut que mon nœud y dure? Alors, il y a plusieurs avis. Il y a un avis dans les Rishonim qui disent que c'est un nœud qui est fait pour toujours. Un exemple, la Gemara elle donne plein d'exemples là-dessus. Je donne un des exemples. Il y a par exemple les sandales de l'époque. Comment c'était? Il y avait une semelle. Et sur cette semelle, il y avait une lanière. Maintenant, dans la lanière de la chaussure, un côté, c'est le côté, c'est la boucle où à chaque fois on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. On va mettre le pied fermé. Mais il y a l'autre côté qui reste tout le temps attaché à la chaussure. D'accord? Donc lorsqu'on fabrique, alors qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un de spécial, il faisait un bon nœud. Et ce nœud-là, il est fait pour rester tout le temps. Jamais on enlève. Où c'est qu'on va défaire et nous faire nouer et renouer la chaussure? Je parle bien sûr d'une chaussure qui est faite en nœud, pour fermer avec une manière de nouer. C'est le côté où on ouvre. Le côté où c'est fermé, ça restera toujours fermé. Donc dans la durée, c'est un nœud qui est fait pour toujours. Ça, d'après tout le monde, c'est un interdit de la Torah dans la durée. Un nœud qui est fait pour toujours. Maintenant, à partir de quand? En lâchant dans l'hébreu, ça s'appelle Kesher Shel Kayama. D'accord? Kesher Shel Kayama. Kayam, ça veut dire qui? Toujours. Comment on dit? El Chai Ve Kayam. D'accord? On parle d'Akadosh Baruch Hu qui existe toujours. Donc le nœud Shel Kayama, c'est un nœud qui est fait pour toujours pour rester. Aucune intention de le dénouer. Et il est fait pour être resté tout le temps. Maintenant, il y a des nœuds qui sont faits pour une durée. On noue. Mais tout le but et toute l'intention et toute l'habitude, c'est de nouer et de pour une certaine durée. Alors, à partir de quand ça va plus répondre aux critères de Shel Kayama? Est-ce que si c'est plus pour toujours, ça devient tout de suite Lo Shel Kayama? Ou il y a d'autres critères? Alors sur ça aussi, il y a une marloquette. Comment tient la halakha? Comment c'est tranché? Si c'est moins que 7 jours, ça veut dire que si mon nœud, je fais un nœud, pour que mon nœud dure moins que 7 jours, ça s'appelle Kesher chez Eno Shel Kayama qui n'est pas durable. Et donc il ne répond pas aux critères de durable. Donc il manque, donc, comme on l'a dit au début, les deux critères durables. Ça ne s'appelle pas durable d'après tout le monde. Ça on est sûr. Dès que c'est au-delà de 7 jours, il y a des avis qui disent que plus que 7 jours et plus, à partir de 7 jours et plus, ça s'appelle déjà durable. On n'a pas besoin que ça soit durable pour toujours. 7, c'est déjà un chiffre qui est déjà durable. 7. Moins que 7 jours, si c'était fait pour 1 jour, pour 2 jours, 3 jours, jusqu'à 7, 7 exclu, ça s'appelle un nœud qui n'est pas durable. Donc il manquera le critère de durable, de temps. Deuxième critère dans les nœuds, c'est la qualité du nœud. Alors en lachon de Gmara, de Halakha, ça s'appelle Kesher Shel Uman. Qu'est-ce que c'est Uman? Uman, c'est un artisan. C'est une ville en Ukraine aussi. Mais Uman en hébreu aussi, c'est un artisan. Umanout. Umanout, c'est un artisan. Uman. C'est-à-dire quoi? Un nœud d'artisan. Alors ça aussi, il y a beaucoup, beaucoup à parler là-dessus. Mais en bref. Un Kesher de Uman, c'est un Kesher qu'un artisan fait. Ça veut dire que c'est un nœud qui est très solide. Si quelqu'un qui n'est pas spécialiste dans les nœuds va faire un nœud, il ne va pas être de la même qualité d'un nœud qui est fait de manière artisanale. L'exemple par exemple tout à l'heure de la chaussure. Un nœud qui est fait à la fabrication de la chaussure du côté où c'est fait jamais pour être enlevé, il est très très solide. Par exemple, il ne va pas se défaire de soi-même. D'accord, il est fait de manière que si quelqu'un qui n'a pas appris le métier, qui essaye de le faire, ça ne va pas être comme celui qui est pro dans ce métier, il va le faire le mieux. Donc c'est un Kesher Shel Uman. Kesher Uman, en deux mots, c'est un Kesher qui est très fort. C'est sûr qu'il ne se dénoue pas de soi-même, mais en tout cas qui est fait de manière artisanale et très très précis. Ça, c'est la définition du Kesher, dans la qualité du nœud, qui s'appelle Kesher Shel Uman. Donc pour que ça soit interdit de la Torah maintenant, est-ce qu'on a besoin des deux avis? Est-ce qu'on a besoin des deux notions ensemble ou pas? Ou ça suffit un des deux? Alors ça aussi c'est une grosse marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. D'après les Ashkenazim, on regarde que le critère du temps. Peu importe la nature du nœud. Ça veut dire que si c'est un nœud qui est fait pour plus de 7 jours, ça sera un interdit de la Torah de le faire. Si c'est un nœud qui est fait pour moins de 7 jours, d'accord, c'est pas interdit par la Torah. Par contre, pour le Shulchan Aruch, il faut les deux notions ensemble pour que ça soit interdit par la Torah. Et durable, et artisanal. Kesher Shel Uman. Si j'ai pas les deux ensemble, ça sera interdit par les Chachamim. D'accord? Les deux notions ensemble. Est-ce que ça me suffit? Une des deux notions? Est-ce que je regarde que la notion du temps? où je rajoute à la notion du temps, je parle maintenant pour définir la mélacha. Est-ce que ça me suffit de définir qu'un nœud qui est fait pour plus que 7 jours, c'est un nœud, et c'est un interdit de la Torah de kosher, j'ai pas besoin de regarder l'artisan ou pas artisan, et au moins que c'est un nœud qui tient. Ou bien non, j'ai besoin de rajouter à cette notion du temps, la notion de qualité de, du nœud. D'accord ? Ça, si j'ai la notion du temps et j'ai pas la notion de qualité, ça sera interdit par les chachamim. Alors, comme on voit dans les cas pratiques, on va voir qu'il y a une différence entre si c'est chachamim ou si c'est de la Torah. Seulement ici, la difficulté qu'il y a à définir ici, c'est qu'est-ce qui s'appelle un nœud d'artisan ? On va dire si quelqu'un fait un nœud presque qui tient bien, vraiment un nœud qui est très très fort. Et on va dire un exemple. Par exemple, il prend un sac en plastique et il noue le sac en plastique. Est-ce que, on va dire, quelqu'un qui fait, mais n'importe qui va faire un nœud sur une matière comme ça qui est très fine, ou on va dire même sur un fil, le nœud, il est très très solide. Donc maintenant, il y a un grand débat dans les poskim. Est-ce qu'on va dire, écoutez bien les deux ça du débat, on va répéter ça avec Natacha la semaine prochaine. Est-ce que de prendre un fil, d'accord, et de nouer quelqu'un qui n'est pas artisan, est-ce qu'on a besoin que ce soit exactement un artisan qui fasse ce nœud, un ouman? Si c'est pas un ouman, il nous manque ce critère, et donc ça ne sera pas interdit par la Torah, d'après le Shulchan Aruch. Ou bien non, même quelqu'un, n'importe qui fait un nœud qui est très solide, il va rentrer dans le critère de ouman. Tout ce qu'on a dit, ouman ou pas ouman, c'est dans la qualité du nœud. C'est parce que quelqu'un qui va faire un nœud qui est partisan, son nœud, au fur et à mesure, un peu, dans un laps de temps, son nœud il va se défaire. Parce qu'il n'est pas un spécialiste dans les nœuds. Donc il y a un grand débat ici, qu'est-ce qui s'appelle dans ce critère? Le critère du temps, il est clair. Plus que 7 jours, c'est interdit. Moins que 7 jours, c'est-à-dire plus que 7 jours, ça, dans tous les cas, c'est interdit. Parce que c'est un nœud qui est fait pour longtemps. Kayama. Moins que 7 jours, un nœud qui est fait pour un jour, un nœud que je fais la veille de Shabbat pour l'enlever le lendemain. D'accord? Un nœud que je fais Shabbat pour l'enlever le lendemain. C'est un jour, deux jours. Ça, ça s'appelle un nœud qui n'est pas durable. D'accord? Donc maintenant, le problème, c'est qu'il y a un deuxième critère qui rentre en jeu et qui est très difficile à définir. Qu'est-ce qui s'appelle un nœud de Ouman? Est-ce qu'on a besoin? Il y en a qui expliquent. Un nœud de Ouman, c'est seulement un vrai artisan qui fait le nœud. Si c'est quelqu'un d'autre qui fait, qui n'est pas spécialiste dans les nœuds, qui ne fait pas exactement comme il fait, ça ne s'appelle pas un kesher shel Ouman. Et donc, si le délai est moins que 7 jours, ça sera permis de le faire. Parce que si je n'ai pas les deux critères, ça devient permis. Ou bien non. On dit que tout nœud qui est solide, d'accord, qui tient bien, qui est fort, on n'a pas besoin que ce soit un artisan qui le fait. Lorsqu'on a dit kesher shel Ouman, c'est juste une image pour nous dire que c'est un nœud qui tient, qui est solide, dans la qualité du nœud. Mais c'est pas obligé que ce soit un artisan qui le fasse. Donc moi, n'importe qui peut prendre des matières qui sont très très très, on va dire qui sont. Donc si je fais un nœud dessus qui est une matière très fine, que si je fais un nœud bien fort, ça s'appelle Kesher shel Ouman. D'un autre côté, c'est pas un Ouman qui l'a fait. Donc ce critère, il est très très débattu dans les poskim. D'accord. Le critère de la limite, comme je l'ai dit, il est clair, moins que 7 jours. Ça s'appelle Kesher qui n'est pas pour toujours. Plus que 7 jours, ça s'appelle Kesher pour toujours. D'accord? Et ce deuxième, c'est un débat. Ça, c'est les deux. Le deuxième critère dans la nature du nœud, c'est très débattu. Est-ce qu'on a besoin que ça soit vraiment un ouman? Ou bien non, on regarde la qualité du nœud. Est-ce que je regarde celui qui fait le nœud, il doit être professionnel? Ou bien non, on regarde la nature. Ce nœud, c'est un nœud qui est bien, bien, bien serré. D'accord ? Ça, c'est les deux notions qu'on a commencé à avoir aujourd'hui dans la mélacha de kosher. La durée du nœud, d'accord ? Et c'est là, on fait une première couche pour l'instant. C'est sûr que ce n'est pas du tout clair encore. Mais là, on goûte à cette nouvelle mélacha là. On va pouvoir trop rentrer dans les détails. J'essaie au maximum de simplifier cette mélacha. Mais rappelez-vous de ces deux notions. Comment définir la mélacha de kosher ? Au Mishkan, on avait besoin de fabriquer un filet, donc on avait besoin de nouer plusieurs fils ensemble, ou de nouer et dénouer. La définition de kosher, c'est assembler deux éléments par l'intermédiaire d'un nœud, d'accord? Maintenant, ce nœud-là, il a deux critères, durée de ce nœud et qualité du nœud. Lorsqu'on définit bien ces deux critères-là, on va pouvoir rentrer maintenant à dire est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit par la Torah ou interdit par les Chachamim. Voilà. Il y a des questions ?
Non. Très intéressant.
Voilà. Ouais. C'est très simplifié. C'est déjà, il y a beaucoup encore à détailler, mais il faut que ça, on reste avec des choses claires. On sort du cours avec des choses claires dans la tête. C'est plus pratique aujourd'hui qu'on va plus revoir maintenant tout ce qu'on a vu. On va reprendre la semaine prochaine Zad Hashem la Melacha de Kosher et arriver à des cas pratiques à la Halema Asseh parce que c'est en fait ce qui nous intéresse le plus. Comment rentrer la théorie dans la pratique et d'être le maître Shomer Shabbat comme il faut. Voilà.
Un sac poubelle.
Ah voilà, très bien. Nouer un sac poubelle. Alors, on peut. Voilà, ça c'est un bel exemple à réfléchir pour la semaine prochaine. Lorsque je noue un sac poubelle, c'est pour combien de temps ? Il reste bien noué. Il reste pas loué pour un jour ou deux jours. Je ne vais pas le rouvrir, mon sac poubelle. Donc ça commence, on commence la pratique. Il faut maintenant mettre en pratique, nouer un sac poubelle. Qu'est-ce qu'on va réfléchir ? D'abord, je vous apprends comment réfléchir, selon les notions qu'on a vues maintenant. Regardez la durée du nœud et regardez la qualité du nœud. Oui, mais est-ce que ça rentre dans le kesher shel Ouman ou pas?
On est tous des Ouman, hein?
Hein?
Ouman, on est tous des Ouman.
Ouman. Est-ce qu'on est des artisans? En sac poubelle, on est tous des artisans.
Pour les sacs poubelles, c'est facile à faire.
En tout cas, dans la durée, si on veut réfléchir, quelqu'un qui noue un sac poubelle, il noue pour le rouvrir derrière? Est-ce qu'il va le rouvrir son nœud?
Non.
Non. Donc c'est plus pour. Est-ce que c'est plus sur plus de 7 jours?
Oui, bah, sûrement.
Donc on a déjà un critère qui a déjà été répondu ici, c'est le temps. Donc si c'est plus que 7 jours, c'est interdit de nouer le sac poubelle.
Mais non, on va le jeter tout de suite, le sac poubelle, on n'a pas 7 jours.
Oui, mais je noue. C'est quoi la définition? C'est quoi la définition de kosher? Bon, on va laisser ça. Hein? Oui, quelle différence entre ça et la poubelle?
Non, la poubelle, elle va être éliminée tout de suite, elle va être déchiquetée, jetée, ça y est.
D'accord, mais moi, je suis intéressé à ce que mon sac poubelle soit noué.
Oui, il est noué, mais on sait que c'est pour peu de temps.
Ah non? Pourquoi c'est pour peu de temps? Qui va dénouer un nœud de sac poubelle?
La machine, l'appareil, la poubelle, le camion de poubelle.
Dans combien de jours ça va arriver au camion de poubelle au dépôt de tous les sacs poubelles?
Non, c'est-à-dire que moi je ne me fie pas si c'est aujourd'hui ou demain qu'il y a le camion, c'est au niveau du nœud que vous avez expliqué.
Très bien.
Moi le nœud, ça durera le temps qu'il faudra, mais ça dure quoi.
Voilà, c'est fait, la manière dont on fait un sac poubelle, c'est fait pour durer.
Oui.
Peu importe quand est-ce qu'il arrive le sac poubelle. Donc si c'est fait. Pardon? Ça dure, très bien. Donc ici, le critère de durable, il est rempli. D'accord? Donc ça suffit pour interdire. Mais ça, très bien. Réfléchissez encore sur ce nœud. Il y a encore plein de... Il y a des sacs en plastique, il y a des... Nouer une mitpacha, nouer un habit, nouer une ceinture. D'accord? Il y a plein de cas pratiques de faire une cravate. Il y a plein de cas pratiques de nœuds pendant Shabbat. Et tout va tourner autour de ces deux critères. Maintenant, Bezrat Hashem, on va voir ça la semaine prochaine en plus de détailler, on va reprendre cette melacha. Voilà. Mais c'est bien que vous avez déjà eu l'idée à des cas pratiques. Directement mettre en pratique, c'est bien. Voilà. Bonne soirée à tout le monde.
Merci, soirée. Bonne soirée à tout le monde.
Au revoir.